This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacha. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir à Fukushima et dans le Sinaï. Ce sera ailleurs dans le monde, le journal de l'international de Michael Thébault. Trump à la Maison Blanche, notre rendez-vous immanquable du lundi avec Frédéric Carbone à Washington. À 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger sur la presse étrangère qui ne comprend plus rien à la présidentielle française. Et tout de suite, direction l'Est de l'Afrique.
Nicolas Demorand. Un jour dans le monde.
Avec ces quatre pays qui, pour des raisons différentes, se trouvent aux prises avec la famine, le Soudan du Sud, la Somalie, le Yémen, le Nigeria, nous parlons de 20 millions de personnes qui doivent faire face à ce que l'ONU appelle déjà une tragédie et, si rien n'est fait, une catastrophe humanitaire majeure. Alors, quelle est la situation sur place exactement? Comment l'expliquer? Que font les humanitaires? Débat ce soir avec Marc Lavergne. Bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur au CNRS, spécialiste des Soudan. Rémi Carcassès, bonsoir.
Bonsoir.
Responsable géographique pour le Sud-Soudan et la Corne de l'Afrique à Solidarité Internationale. Et nous sommes en ligne avec le responsable de la cellule Sud-Soudan à MSF, Stéphane Doyon. Bonsoir, vous êtes avec nous par téléphone.
Oui, bonsoir.
Vous revenez de cette zone, Stéphane Doyon. Comment décrire la situation sur place?
Écoutez, la situation sur place, il faut savoir qu'on est dans un pays qui est en conflit depuis 3 ans. Il y avait déjà eu un conflit de 22 ans entre 1983 et 2005. Et ces faits sont pas anodins pour les populations. On a 3 500 000 personnes qui sont en situation de déplacement sur une population de 12 millions. Donc c'est énorme. Le conflit affecte énormément de gens et beaucoup de personnes sont dans des situations assez difficiles, notamment dans les zones qui ont été décrétées comme les zones les plus critiques, où on a des populations qui sont sans cesse en situation de déplacement, notamment dans l'état d'unité. Unity State, où les populations sont constamment en situation de fuite dans des zones de marée, à essayer de survivre et de fuir la guerre, et où nous-mêmes nous voyons un état sanitaire, en tout cas pour ces populations, relativement tendu, sans pour nous pouvoir caractériser proprement la situation, puisqu'on n'est pas partout au niveau du Sud-Soudan, mais en tout cas sur les zones sur lesquelles on travaille, on voit une situation
tendue. Ça veut dire quoi? Tendue, ça veut dire quoi, Stéphane Doyon?
Des chiffres de malnutrition qui sont en hausse, notamment chez les enfants, sans pouvoir parler en tout cas dans les zones où on est de situation de famine, mais une situation un petit peu nouvelle puisque c'est des zones où il n'y avait pas forcément tout le temps de la malnutrition. Et après, beaucoup de maladies communes comme des infections respiratoires aiguës ou des diarrhées, qui sont un petit peu les maladies communes qu'on trouve dans les situations de déplacement où les gens n'ont pas accès à l'eau potable, ne peuvent pas dormir tout le temps sous un toit, etc. Donc en fait des situations qui sont quand même assez critiques pour ces populations-là. Alors après, le Sud-Soudan est un pays relativement grand, donc après les situations sont assez diverses en fonction de l'espace duquel on parle. L'espace duquel je parlais est une zone relativement centrale, ce qui fait qu'en fait les populations fuient dans la brousse en essayant de survivre comme ils peuvent et depuis de nombreuses années, donc ils sont assez épuisés par ce type de situation-là. Sur la zone de l'Équateur, par exemple, on a des situations très diverses où c'est des zones qui sont nouvellement en conflit et où bon nombre de populations sont en fait plutôt passer de l'autre côté de la frontière en Ouganda de manière à aller chercher des secours et fuir la guerre. Et donc on a vu des populations qui arrivaient dans un état, on va dire, sanitaire qui n'était pas déplorable et qui fuyait plutôt la violence et qui ont pu être secourus au niveau des camps de réfugiés dans lesquels ils se sont réfugiés. Une situation un peu similaire en Éthiopie et au Soudan. Hein. Comme je disais, il y a actuellement 1 600 000 personnes qui ont fui le Sud-Soudan pour aller dans les pays limitrophes aller chercher refuge. Et après, on a d'autres zones qui sont placées comme des zones à forte insécurité alimentaire, comme le Nord Bahr el Ghazal, où c'est plutôt des situations, une situation relativement stable. Donc, il y a un problème chronique où, bon, pour nous, en tout cas, aujourd'hui, on n'est pas dans toutes ces zones-là. Au Nord Bahr el Ghazal, on a plutôt un hôpital relativement central, et à vue de l'hôpital, on a pour l'instant pas une situation très critique, puisqu'en fait les admissions d'enfants pour malnutrition sont plutôt moindres que celles qu'on pouvait observer l'année dernière.
Bien compris, Stéphane Doyon. La parole circule ici aussi en studio à France Inter. Quel besoin avez-vous identifié, Rémi Carcassès? Je rappelle que vous êtes le responsable pour le Sud-Soudan et la Corne de l'Afrique de Solidarité Internationale.
Alors, chez Solidarité Internationale, on travaille au Sud-Soudan et en Somalie. On a une action qui est centrée sur les besoins en eau potable et en infrastructures sanitaires. Ce qui se passe, c'est qu'on a des populations qui étaient très fragilisées, qui ont pris ce choc climatique, mais surtout qui subissent des déplacements massifs et qui sont confrontés à des problématiques alimentaires assez importantes. Mais il faut bien comprendre que quand les gens meurent de faim, en général, ils attrapent des maladies et meurent de maladies, parmi lesquelles les maladies diarrhéiques, donc les maladies hydriques. Et donc nous, on s'attelle en ce moment à travailler là-dessus, de faire en sorte que les gens ne soient pas pris dans cette spirale de maladies qui les empêchent de digérer et qui les affaiblissent, ce qui fait qu'ils sont de plus en plus malades et de plus en plus souffrants.
Marc Lavergne, pourquoi on entend là des tableaux nuancés où il y a tout de même beaucoup de souffrances et un certain nombre de risques avérés? Pourquoi l'ONU parle de tragédie aujourd'hui et de catastrophe à venir si personne ne bouge, la communauté internationale, pour ne pas la nommer?
L'ONU a constaté qu'il y avait 100 000 personnes qui étaient en danger de mort et, comme ça a été rappelé tout à l'heure, 4 ou 5 millions, c'est-à-dire près de la moitié de la population du pays qui était menacée de famine, de catastrophe. Bon, il y a comme ça toute une échelle de gravité des situations. Mais je crois que ce qu'il faut noter là, c'est que l'ONU observe une situation qu'elle a sinon contribué à créer, du moins vu évoluer et vu naître depuis l'indépendance du pays en juillet 2011. C'est-à-dire que le problème du Sud-Soudan, puisque on se concentre pour l'instant sur ce pays, c'est que la communauté internationale a voulu la naissance de ce nouvel État et s'en est réjouie, alors que il n'y avait pas d'administration, il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas d'infrastructure, pas de services publics. Et surtout, les dirigeants qui ont été mis en place n'avaient absolument aucune considération pour le bien-être de leur population ou pour les besoins de développement de la population. Ce qui fait que l'ONU s'est installée sur place avec une armée de 13 000 hommes aujourd'hui, avec aussi une armée civile, si on veut, de fonctionnaires importés de tous les pays industrialisés, disons, des gens qui ont fait de bonnes études mais qui connaissent absolument pas la réalité du terrain. Et elle a laissé filer les choses, c'est-à-dire laisser ce gouvernement en place, qui est un gouvernement d'anciens rebelles, de soldats, se dévoyer complètement, c'est-à-dire détourner l'argent, le gaspiller, sans affecter aucune des ressources du pays, qui sont importantes. C'est un pays producteur de pétrole, qui avait largement de quoi faire des routes, des hôpitaux, des structures à la fois de santé, d'éducation, etc., et qui n'a rien fait. Donc l'ONU est là en train de pleurer, finalement, sur son échec, qui a été signalé déjà depuis assez longtemps. Et puis ça concerne aussi la communauté internationale, qui a décidé la naissance d'un nouvel État, sans assumer les besoins de ce nouvel État dans un premier temps. C'est-à-dire que les Américains qui ont obtenu cette sécession du Sud-Soudan, mais les Français étaient aussi derrière, et les Britanniques, dès que l'encre de les accords de 2005 ont été signés, sont partis s'occuper d'autres crises dans le monde et se sont désintéressés de la situation. Donc ce n'est pas du tout une crise climatique à laquelle
voilà,
on a affaire.
C'est une crise politique.
C'est une crise politique, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que dans d'autres états de la région, on a une dimension climatique plus grande. Il y a partout de la violence, bien sûr, au Yémen, n'en parlons pas, il y a un embargo qui affame la population. En Somalie, il y a une situation de sécheresse, mais aussi d'instabilité. C'est pas la peine de développer ça, parce que je pense que tout le monde se rend compte qu'avec les chebabs et puis les conflits entre les différents clans, il y a une situation qui n'est pas maîtrisée. Au Nigeria, il y a Boko Haram, etc. Mais donc on a au Sud-Soudan certainement peut-être des aléas climatiques auxquels les gens sont habitués, parce que les gens sont des éleveurs de bétail, donc ils se déplacent en fonction des pluies, en fonction des endroits où ils vont trouver des pâturages. Mais là, le bétail a été soit volé, soit tué par ces jeunes qui appartiennent à des groupes rebelles ou bien à l'armée gouvernementale, qui s'affrontent entre eux, mais qui veulent aussi piller, violer, tuer, et donc qui sèment le désastre dans ces régions du Sud-Soudan, qui ne sont pas toutes les régions, ça a été rappelé aussi, c'est l'état d'unité, et puis c'est le nord du Bahr el-Ghazal, ça dit rien peut-être à nos auditeurs, mais enfin, c'est des régions importantes, assez peuplées, au milieu de marécages, effectivement, mais là, on est en saison sèche, on devrait pouvoir apporter de la nourriture si on avait de la sécurité. Mmh. Et que font les 13 000 soldats de l'ONU, les casques bleus, s'ils ne sont pas capables de, disons, d'aider les organisations humanitaires à acheminer de l'aide alimentaire dont il y a besoin avant la saison des pluies qui va arriver au mois de juin.
Je vous retourne la question, Marc Lavergne, que font-ils les casques bleus? Point d'interrogation.
Ils se défendent. Et ils défendent les cadres de l'ONU qui sont installés dans la capitale. L'idée aujourd'hui, c'est de sécuriser la capitale, Djouba, et c'est de sécuriser les camps de l'ONU, c'est-à-dire des camps qui n'étaient pas faits pour des déplacés ou des réfugiés, mais qui étaient faits pour abriter le personnel de l'ONU. Or, dès que ces événements se sont déclenchés en décembre 2013, la population civile de la capitale s'est ruée dans ces camps et s'y est installée, et il y a encore aujourd'hui, il y a 200 000 personnes, donc qui sont protégées, je dirais, par l'ONU de gré ou de force, c'est-à-dire que l'ONU est obligée de protéger ses installations, mais elle ne fait rien de plus, parce que ces soldats sont grassement payés. Ils viennent de 50 pays de la planète, de pays tout à fait inattendus, ça peut être le Bhoutan, les îles Fidji, etc. Et ils ne sont pas là pour se faire tuer, pour des causes qu'ils ne comprennent pas, dans un pays, un environnement qu'ils ne connaissent pas, et donc ils touchent de bonnes soldes, et ils attendent que les choses se passent.
L'ONU appelle à la communauté internationale, qui n'est pas au mieux de sa forme, ou ce qu'il en reste, en tout cas, appelle donc à l'action. Ça peut prendre quelle forme? Et est-ce que vous croyez à ce type d'appel aujourd'hui, Marc Lavergne?
C'est un appel un petit peu rituel. L'ONU donc a décidé de dévoiler la situation du Sud-Soudan qui échappait aux médias, aux diplomates et à tous les acteurs, y compris les humanitaires, parce qu'MSF est présente au Sud-Soudan depuis... ma première visite à un camp d'MSF au Sud-Soudan remonte à 1983. Autant vous dire que c'est un bon client pour les organisations humanitaires. Mais là, il y a des difficultés d'accès qui sont aussi administratives. C'est-à-dire que le gouvernement sud-soudanais ne tenait pas trop vers les humanitaires. Alors aujourd'hui, ce qui pourrait être fait, c'est de manière assez classique, apporter de la nourriture en urgence, mais ça coûte très cher parce que les routes sont impraticables, sont dangereuses à cause de toutes ces milices qui se battent entre elles ou bien qui essaieraient de s'emparer de ces camions. Et puis, il y a des barges sur le Nil aussi qui pourraient passer, mais il faudrait sécuriser tout ça. Dans la mesure où on a une armée d'opérettes, il faut bien le dire, eh bien, je crois que c'est assez difficile et que l'ONU appelle les ONG à apporter des ressources, mais après, comment accéder aux gens qui en ont besoin, c'est toujours la question.
Donc, les éléments de la catastrophe sont réunis à vous entendre. Il est très difficile d'apporter de l'aide, très difficile de faire pont aérien ou ce genre de choses. À vous entendre, c'est une situation chaotique ou presque.
L'Union européenne a décidé d'affecter 82 millions d'euros à cette situation, c'est une petite somme, mais déjà 90 millions d'euros, il faut les convertir en nourriture, il faut acheminer la nourriture jusqu'au Kenya, et puis après la faire passer, remonter, disons percoler dans tous les villages et toutes les régions de la brousse, et ça va prendre des mois. Et comme je disais, les pluies qui viennent l'été dans ces pays-là arrivent au mois de mai, au mois de juin, et à partir de ce moment-là, les routes sont impraticables. Donc ça va être des largages aériens qui coûtent 7 fois plus cher que l'acheminement par camion.
Ça va être dur pour vous, Rémi Carcassès?
Oui, ça va être dur. On ne voit pas tellement de raisons que la situation s'améliore. On disait qu'il n'allait pas pleuvoir avant le mois de mai, si tout se passe bien. Et les récoltes ne viendront pas avant mai plus 3 mois. Donc il n'y a aucune raison que la situation s'arrange avant la fin de l'été. Et comme on vient de dire, la problématique de l'accès, elle est centrale. Dès qu'il pleuvra, la moitié du soutien sera sous l'eau et on n'aura plus le choix que de faire intervenir les avions, ce qu'on fait déjà. Ça coûtera très cher, ce sera en bonne partie en remote et ce sera peu efficace.
En remote, expliquez-nous en deux mots.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des zones qui sécuritairement ne nous permettent pas d'accéder. Il y a des axes entiers à l'est et à l'ouest du Sud-Soudan, notamment, puisque c'est de ça dont on parlait tout à l'heure, qui nous sont rigoureusement accessibles. Donc on fait ce qu'on peut à distance avec des équipes locales ou ce que font certaines ONG, Solidarité Internationale ne le fait pas, mais en ce moment il y a des largages par avion. par avion du PAM qui largue des sacs de nourriture au-dessus de terrains de foot, par exemple. Mmh. Donc, on fait ce qu'on peut pour monitorer ça.
Merci à tous les trois. Marc Lavergne, chercheur au CNRS, spécialiste des Soudans, on l'a entendu. Rémi Carcassès, vous aviez la parole à l'instant, responsable géographique pour le Sud-Soudan toujours et la Corne de l'Afrique à Solidarité Internationale. Et Stéphane Doyon qui était avec nous au tout début de cet entretien, responsable de la cellule Sud-Soudan à MSF Médecins Sans Frontières. 18h32 sur Inter, le journal de l'International dans quelques instants.
Oh my God. The things that we just started in the sun. And money never meant a thing to me that way. Oh, my girl, you know we'll never see the end of lies and things we never can get over. Go away into the night. You see me, but I try. Oh, my girl, you know I'll never see. Oh, my girl, you know I'll never see. Oh, my girl, you know I'll never see. Yeah. Of all the years I waited by your side.
Company sur Inter, 18h34.
20 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Michael Thébault, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Ailleurs dans le monde pour commencer, Michael, direction le Japon, 6 ans tout juste après la catastrophe de Fukushima.
Et c'était précisément le 11 mars 2011, une triple catastrophe, très violent séisme d'abord, puis le tsunami et l'accident nucléaire, désastre commémoré avant-hier samedi partout au Japon. Recueillement et silence, mais aussi manifestations. Quelques centaines de personnes, des sinistrés pour la plupart, qui ont voulu dire non à la politique du retour. Car dès les premiers mois qui ont suivi la catastrophe, les autorités japonaises ont promis aux 80 000 personnes évacuées de tout mettre en œuvre pour effacer les traces de radioactivité et donc permettre à ses habitants d'un jour rentrer chez eux. Promesse folle, pari insensé, mais tenu, Nicolas, comme ce 12 juillet 2016, le maire de la petite ville de Minamisoma annonçait la fin de l'évacuation.
Aujourd'hui, en ce 12 juillet 2016 à minuit, l'ordre d'évacuation qui pesait sur la ville de Minamisoma sera levé, à l'exception de la zone où le retour est difficile. Ce furent 5 ans et 4 mois remplis de souffrance, de colère et d'angoisse pour vous tous. Unissons-nous et mettons tout notre cœur dans ce nouveau départ. Pour nous donner du courage, répétez après moi.
Voilà, Voilà, extrait d'un formidable reportage télé intitulé « Revenir à Fukushima ». Reportage signé Marie Linton, correspondante de France 24 au Japon, et qui a suivi la catastrophe dès les premiers jours. Marie Linton.
Moi, la première fois que j'y suis allée, c'était 2 semaines après l'accident nucléaire. Et ça a été vraiment le choc de ma vie, de rentrer dans cette zone lunaire, avec des gens en combinaison radiologique qui couraient sans savoir où, des animaux morts, des chevaux morts, parce qu'ils avaient été laissés là pendant 2 semaines. Et du coup, j'ai été vraiment frappée par la volonté du gouvernement de réouvrir si vite la zone. J'y ai pas cru une seconde au début, à leur agenda extrêmement serré de réouverture des villes. Et pourtant, ils l'ont fait aujourd'hui. Plus de la moitié de la zone interdite de Fukushima a réouvert.
Plus de la moitié a rouvert, mais les habitants ne se pressent pas pour rentrer chez eux. La peur de la radioactivité 6 ans après est toujours là, évidemment, malgré les gigantesques opérations de décontamination menées par les autorités.
Le plus difficile, bien sûr, c'est la décontamination. Concrètement, ça veut dire racler tous les champs, enlever la terre. Ça veut dire nettoyer les toitures, asperger les rues avec de l'eau. On voit des milliers de travailleurs avec des petits chiffons en train de nettoyer les fenêtres, les gouttières. Donc ça veut dire concrètement enlever la radioactivité et la transférer vers des centres de stockage. Ça paraît fou parce que, bien sûr, la radioactivité n'est pas palpable. Et donc essayer d'enlever toute la radioactivité, bah, tout simplement, c'est impossible. Et donc, dans le meilleur des cas, on arrive à enlever 50% de la radioactivité, mais pas totalement la radioactivité. Donc, on réduit les niveaux de dose en pensant que ça deviendra acceptable pour la population et qu'elle pourra revenir.
On réduit les niveaux de dose, ou si vous préférez, on essaie de persuader la population que le seuil acceptable peut être relevé sans danger pour la santé dans les zones contaminées. Les autorités estiment ainsi qu'en dessous de 20 millisieverts par an, un adulte et même un enfant peuvent parfaitement vivre sans risque. Mais écoutez ce qu'en dit l'un des scientifiques français interviewé dans ce documentaire.
20 millisieverts par an, c'est la limite réglementaire annuelle que ne peut dépasser un travailleur du nucléaire. Alors, 20 millisieverts par an, est-ce qu'il s'agit d'une dose dangereuse ou pas? Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que au-delà de 100 millisieverts par an, on est sûr qu'il y a un lien entre un effet sur la santé et la dose. Par contre, aucune étude épidémiologique n'a permis à ce jour de démontrer de façon formelle ce lien pour des doses inférieures à 100 millisieverts.
Voilà, de simples habitants qui, de retour chez eux, recevraient donc potentiellement les mêmes doses qu'un travailleur du nucléaire. Et c'est aujourd'hui la norme en vigueur. Et le débat, vous en doutez, agite aussi la communauté scientifique nippone. Et pas facile, même quasi impossible pour les sinistrés, de savoir qui croire.
Il y a des gens qui pensent que même une dose extrêmement faible de radioactivité peut avoir des effets négatifs sur la santé. Il y a d'autres experts qui disent qu'en dessous d'une certaine dose, les effets ne sont pas avérés, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à prouver qu'il y a des effets, on n'arrive pas vraiment non plus à prouver qu'il n'y a pas d'effet. Donc on est vraiment là dans le principe de précaution et c'est les familles qui doivent concrètement décider dans cette zone de flou, c'est-à-dire qu'elles voient les scientifiques débattre, elles comprennent pas tout, elles apprennent à savoir ce que c'est qu'un millisievert, un microsievert, etc. Et dans ce brouhaha, elles doivent décider si elles peuvent revenir ou pas.
Et dans ce documentaire, Marie Linton a donc suivi durant près d'un an 3 familles différentes. 3 familles qui s'interrogent. Doivent-elles, peuvent-elles rentrer chez elles? Une seule a fait le choix du retour avec enfant. Explication simple et prosaïque. Ras-le-bol de vivre depuis 6 ans dans un préfabriqué quand on est propriétaire d'une vaste maison avec jardin, même en zone contaminée. Et le gouvernement, bien sûr, se veut très rassurant. Les 80 000 personnes évacuées sont accompagnées depuis le début, financièrement, psychologiquement et médicalement.
Ils ont reçu des indemnités quand même conséquentes pour à la fois les dommages psychologiques et aussi indemniser la perte de l'emploi, la perte de la maison. Les familles ont été relogées. Et ensuite, il y a un suivi médical renforcé, notamment les examens des thyroïdes de tous les enfants de la préfecture, donc 360 000 enfants de toute la préfecture de Fukushima, qui sont examinés tous les 2 ans pour détecter la survenue de cancer de thyroïde. C'est ce qu'on a appris de Tchernobyl.
Et le 31 mars prochain, quatre nouvelles villes vont rouvrir, dont deux situées à une dizaine de kilomètres seulement de la centrale de Fukushima. Les 32 000 anciens résidents auront donc la possibilité de rentrer chez eux. Impossible évidemment de dire combien oseront franchir le pas, d'autant que l'argumentaire politique est de plus en plus critiqué. L'actuel gouvernement japonais, faut le savoir, est ouvertement pro-nucléaire. Marilyn Dunn.
Mais en fait, quand on pose la question à des responsables politiques, pourquoi est-ce que vous faites autant d'efforts pour ouvrir la zone ? Ils disent souvent que le Japon est un pays très petit et qu'on ne peut pas se permettre de perdre du territoire. Mais c'est un petit peu léger comme explication parce que de toutes les façons, Fukushima, c'est une région rurale, assez vieillissante. C'est pas stratégique, c'est pas comme si c'était Tokyo ou Osaka où là, effectivement, on ne peut pas se permettre de perdre du territoire. Ensuite, il y a un petit peu, effectivement, l'esprit samouraï. Donc, on a commis une faute puisqu'on sait que l'accident nucléaire est provoqué en parti par une erreur humaine. Et donc, il faut réparer la faute, faire revenir les gens, nettoyer, etc. Ensuite, il y a quand même une explication qui est soulevée par un des personnages, c'est le fait que si on montre qu'on peut réparer un accident nucléaire, alors on pourra redémarrer plus facilement les autres réacteurs nucléaires du pays.
Voilà, c'est dit. Revenir à Fukushima, reportage donc de Marilyn Dunn à découvrir ce jeudi à 15h45 sur France 5 ou sinon, bien sûr, comme on dit en français, en replay.
Et à 18h42 après le Japon, direction maintenant le Nord Sinaï, Michael, zone frontalière entre l'Égypte, Israël et la bande de Gaza.
Et une zone où la situation sécuritaire ne cesse de se détériorer car les milices djihadistes y ont pris le pouvoir depuis maintenant près de 4 ans, dont la plus puissante, autoproclamée province du Sinaï, qui a fait allégeance au groupe État islamique. Une milice qui s'attaque surtout à la police, à l'armée égyptienne, mais qui terrorise aussi une partie de la population. Population civile, littéralement prise entre deux feux, djihadistes d'un côté, armés de l'autre. Bonjour François Hume, correspondant de France Inter au Caire.
Bonjour.
Alors vous avez pu vous rendre, François, dans cette région du Nord Sinaï, région qui échappe totalement au radar médiatique.
Oui, et puis il faut dire que les autorités font tout ce qu'elles peuvent pour qu'on ne parle pas de ce qui se passe dans cette zone où la politique de l'armée, tenue en échec par les islamistes radicaux, est largement décriée. Il existe par exemple une interdiction formelle pour les journalistes ou les observateurs indépendants de se rendre sur place. Mais face à la détérioration de la situation, eh bien le sujet est maintenant inévitable. 200 familles chrétiennes ont récemment dû quitter en catastrophe la ville d'Al-Arish devant les exactions répétées de Daesh. J'ai rencontré à Ismaïlia Nabila Faouzi, une femme de 65 ans, habillé tout de noir. Quatre jours plus tôt, son fils et son mari étaient abattus devant ses yeux par des membres de Daesh.
Deux hommes ont frappé à la porte de ma maison à 22h30. Ils portaient des cagoules. Vous ne pouviez voir que leurs yeux. Ils ont tiré sur mon fils en face de moi. Je leur ai demandé pourquoi vous avez fait ça. Alors ils m'ont jeté dehors. Après, ils sont allés tuer mon mari. Ils lui ont mis une balle dans la tête. Puis ils ont volé les bouteilles de gaz, la gazinière, les casseroles et ils ont mis le feu à la maison. Même les corps ont été brûlés.
Une situation de détresse qui a provoqué un élan de solidarité immédiat à Ismaïlia, une ville qui borde le canal de Suez. L'évêque Makarios de la cathédrale copte catholique a participé à l'accueil de ces familles et tente de garder le contact avec celles qui sont restées, désormais directement menacées par l'État islamique.
Elles ont peur, c'est tout. En tout cas, il y a des personnes qui n'ont pas voulu quitter l'Arish parmi nos fidèles parce qu'ils comptent sur la Providence. On cherche de les convaincre de quitter la cité et donc venir à Ismaïlia et nous sommes prêts de les accueillir.
Mais François, on le disait, ça fait 4 ans quasiment que l'armée essaie de venir à bout de cette milice, la province du Sinaï. Pourquoi est-ce si difficile ?
L'armée, avec l'accord d'Israël, a déployé plus de 15 000 hommes dans le Nord Sinaï et pourtant elle peine à venir à bout des insurgés estimés à quelques milliers, une grande majorité d'Égyptiens bédouins, originaires du Sinaï ou venus du delta du Nil. J'ai donc posé la question à Eshraf El-Sherif, spécialiste des mouvements extrémistes et professeur à l'université américaine du Caire.
Wilayat Sinaï devient de plus en plus intégré à la population locale. Peut-être qu'ils sont un peu moins forts en termes de puissance de feu, de capacité militaire, mais ils se fondent à la population. Ils sont moins dangereux militairement, mais plus dangereux politiquement. Dans le passé, il y a 2 ans, ils copiaient les tactiques de Daesh en Irak et en Syrie. L'idée étant d'attaquer comme une armée pour occuper un territoire et tenter de créer un État. Maintenant, on ne voit plus ça, mais ils mènent des attaques terroristes à plus petite échelle et ensuite ils disparaissent comme des poissons dans la mer pour créer une situation permanente de déstabilisation. Il devient impossible de les éradiquer.
Voilà, cette violence au quotidien du groupe État islamique et le contre-terrorisme de l'armée égyptienne qui est aussi très décrié par la population.
Alors selon les différents habitants avec lesquels je me suis entretenu, la population civile paye le prix fort de cette lutte contre le terrorisme. Couvre-feu depuis 3 ans, déplacements forcés de population, coupures quotidiennes d'électricité, de courant ou même du réseau téléphonique, bombardements, échanges de tirs à l'aveugle, bref la liste est longue, l'armée s'en prend aux terroristes par tous les moyens et peu importe les conséquences sur la population. Mohammar Sawarka, professeur d'anglais à El Arish, est l'un des seuls à prendre le risque de s'exprimer publiquement sur la question.
Les gens font face à 2 dangers qui les menacent. L'État islamique et l'armée. Le quotidien de la population est devenu très difficile, car les arrestations sont devenues monnaie courante. C'est devenu très facile de prendre quelqu'un et de le mettre en prison. Ceux qui vivent en dehors des villes sont les plus exposés à de graves violations, parce que l'armée campe là, à cause des checkpoints, à cause du nombre de soldats, de militaires. Il y a une vraie confrontation entre l'armée et les terroristes, mais ce n'est pas une façon de combattre le terrorisme. Quand l'armée mène une attaque pour affronter un groupe de terroristes, ils détruisent des maisons, ils tuent des gens sur leur chemin et ils détruisent tout sur leur passage. La manière de traiter les gens est très dure et très compliquée. Et les gens ne trouvent personne, aucun canal de communication pour s'exprimer et expliquer comment ils subissent quotidiennement de graves abus et des violences.
Des injustices qui en réalité profitent à l'État islamique, qui peut ainsi garnir ses rangs de nouvelles recrues, notamment parmi les adolescents. Nous avons cherché à avoir la position de l'armée égyptienne sur ce sujet, mais la réponse est catégorique. Nous ne sommes pas autorisés à parler de cette zone. Vous pouvez lire nos communiqués.
François Hume, correspondant de France Inter au Caire, est donc de retour, c'est rare, hein, du Nord Sinaï. Merci François et Nicolas, à demain.
À demain, Michael.
The 45th President of the United States of America, Donald J. Trump.
Un jour dans le monde.
And God bless America.
Sur France Inter.
Trump à la Maison-Blanche, notre rendez-vous du lundi avec Frédéric Carbone à Washington. Et cette semaine, Frédéric, est marquée par la première grande bataille de la présidence Trump. J'ai nommé la réforme de la santé.
En effet, nous y voilà en pleine empoignade parlementaire qui, pour le moment, mais on n'en est qu'au début, se cantonne presque à un affrontement interne au camp républicain. L'acteur principal, c'est Paul Ryan, le numéro 1 de la Chambre des représentants. C'est lui qui porte le projet censé remplacer l'Obamacare. Il fait la tournée générale avec ses graphiques montrant comment tout va aller mieux. Et il a un message, ce plan, il est à prendre ou à laisser.
This is the closest we will...
C'est le mieux que nous puissions faire pour abroger et remplacer l'Obamacare. Le temps est venu, c'est le moment, et nous n'avons jamais été aussi près du but. Cela se résume à un choix binaire.
Vous le voyez, Paul Ryan veut aller vite. Seule condition pour que sur un sujet aussi sensible, la réforme ne s'enlise pas. Le projet a déjà été adopté par 2 commissions et les républicains ont une confortable majorité à la Chambre. Seulement problème, la frange conservatrice est furieuse pour ces radicaux qui réclament une abolition pure et simple de la loi actuelle. Il s'agit d'une version allégée de l'Obamacare. Jim Jordan se fait le porte-parole de ses élus.
Faisons cela bien et surtout, faisons ce que nous avons promis à nos électeurs. Je ne pense pas que ce plan soit bon pour les familles qui travaillent dur. Tous les conservateurs sont opposés à ce projet qui est une autre version de l'Obamacare. Nous n'avons pas dit à nos électeurs que nous allions garder des pans entiers de cette loi. C'est cela que détestent les électeurs. Donc, faisons Faisons ce que nous avons dit et ce qu'ils attendent de nous.
Le lobby est puissant, ses élus sont soutenus par de riches groupes d'intérêts, Sarah Palin, la madone des Tea Party est de leur côté, bref, ces gens qui ont été les fers de lance de la guerre de tranchées qui a duré des années contre l'Obamacare, eh bien, ils ne se retrouvent pas dans ce projet.
Et puis, Donald Trump, lui, ne se contente pas d'être spectateur, Frédéric, il joue gros, il joue même très gros dans cette bataille.
C'est un moment très important pour lui, parce qu'il a été élu sur une double promesse, certes mettre un terme à cette loi détestée dans son camp, mais avec aussi l'engagement que les 16-20 millions d'Américains qui ont un meilleur accès aux soins ne le perdent pas. Autrement dit, la quadrature du cercle, d'où les contorsions législatives. Alors il s'implique, Donald Trump, il fait pression sur ses élus sceptiques, il les cajole également en les recevant à la Maison Blanche, il a même dîné en famille avec son meilleur ennemi de la campagne, le sénateur Ted Cruz. Tout cela est d'autant plus important que lui, le flambeur new-yorkais, a fait alliance objective avec ses conservateurs. C'était indispensable pour être élu et maintenant, il le lui rappelle. Voici Raoul Labrador, représentant de l'Idaho.
Le président Trump ne doit pas oublier que quand les choses allaient mal pour lui pendant la campagne, ce sont des gens comme moi qu'il soutenait, alors que de nombreux dirigeants républicains pensaient qu'il n'avait aucune chance de gagner. Donc maintenant qu'il a gagné, nous allons l'aider à tenir les promesses qu'il a faites aux Américains.
Donald Trump se retrouve ainsi au milieu de la bataille, une sorte d'arbitre entre les courants républicains. Il y a un vrai risque politique pour lui. Et là où l'enjeu est énorme, c'est que dans de nombreux États industriellement sinistrés, où le vote Trump a été très fort, eh bien c'est là aussi où l'on retrouve le plus de gens à qui la réforme actuellement en discussion rendra l'accès aux soins plus cher, donc plus compliqué.
Oui, car l'essentiel, Frédéric, ce sont bien les conséquences sur les Américains les moins fortunés.
Absolument, voilà des millions de gens qui aujourd'hui s'interrogent et se demandent s'ils pourront continuer à faire leurs examens médicaux, s'ils pourront se payer les traitements, si la médecine préventive restera abordable. Et une des grandes inquiétudes, c'est la perspective de limiter l'impact de Medicaid, cette aide médicale fournie par les États aux patients les plus modestes, question parfois de vie ou de mort, comme pour Rebecca dont la fille de 4 ans a besoin depuis sa naissance de traitements très lourds.
S'ils suppriment Medicaid comme ce nouveau plan le prévoit dans mon état, alors je ne sais absolument pas quelle sera ma couverture. Est-ce que je pourrai nourrir ma fille et lui fournir les soins dont elle a besoin pour grandir et devenir une adulte indépendante? C'est déjà très cher et ça sera pire. Ma crainte, c'est que sans assurance et sans aide, tout cela me sera coupé.
Des cas comme celui de cette mère de famille qui vit en Virginie, il y en a partout aux États-Unis. C'est pour cela que des gouverneurs et des sénateurs républicains comme démocrates préviennent qu'il faudra faire très attention. Autrement dit, après la fronde actuelle des radicaux, il y aura dans un deuxième temps la rébellion des modérés. Tout se passe comme si, Nicolas, après avoir contesté une réforme à cause du nom Obama qui lui était accolé, de nombreux Américains voyaient désormais avant tout le bénéfice qu'ils ont pu personnellement en tirer.
Allez, pour finir, Frédéric, quelques mots des débuts, comment dire, délicats de certains ministres de Donald Trump.
Effectivement, on a parlé du patron de l'Agence de l'environnement qui a subi la bronca des scientifiques après avoir dit qu'il n'y avait aucune preuve que l'activité humaine et le CO2 soient à l'origine du réchauffement climatique. Mais au rayon révisionniste, difficile de faire pire que Ben Carson. Dans son premier discours de ministre de la Ville, il se lance dans une défense de l'immigration au point de confondre migrants et esclaves.
Il y a d'autres immigrants qui sont arrivés ici, enchaînés dans les cales de bateaux. Eux aussi avaient des rêves. Ils voulaient que leurs enfants et leurs petits-enfants puissent être prospères et heureux.
Voilà pour les propos de Ben Carson, lui-même africain-américain, qui avait déjà comparé l'avortement à l'esclavage. Tollé, vous l'imaginez, des associations antiracistes, mais Ben Carson persiste en affirmant qu'il y a des immigrants involontaires. On est bien parfois dans un gouvernement de la réalité alternative.
Frédéric Carbone à Washington. Quelques mesures des Beach Boys, puis Anthony Bélanger.
She's born in her lead and she's stroking fortune. She's 104.
Les Beach Boys sur Inter, l'édito dansé d'Anthony Bélanger.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
Bonsoir mon cher Anthony.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Vous vous êtes penché Anthony sur la presse internationale qui a du mal à suivre l'élection présidentielle française.
Hein. Bah, on les plaint d'une certaine façon, hein, parce que nous aussi on a du mal à suivre. Hein. Rebondissement, mise en examen, candidat favori éliminé, président absent, cette campagne est folle. Mais imaginez que vous êtes à New York, à Londres, à Madrid ou même à Tokyo et qu'il vous faille expliquer notre présidentielle en quelques mots. Comment faire?
Bah, bon courage.
Eh bien déjà, on prévient son lecteur que ça va être compliqué et qu'il va falloir redoubler d'attention. Ça donne par exemple dans les pages du Mainichi Shimbun japonais. Cette année, pour les conservateurs français, la présidentielle devait se passer sans effort. C'est évidemment compté sans l'affaire Fillon, mais après deux pages d'explications touffues, où il est à peine question de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron, hein, comme pour ne pas se disperser, le quotidien Tokyote renvoie la balle de la complication à la gauche. Les ennuis de la droite n'ont d'égo que la cacophonie à gauche qui semble incapable de s'unir derrière un candidat unique. Et le Mainichi conclut, c'est à n'y plus rien comprendre, c'est tout le système bipartite français qui semble s'effondrer.
Et plus près de nous, Anthony, est-ce que les journalistes s'en tirent mieux?
Bah, pas vraiment, non.
Ah bon?
Non. Prenez une Foreign Affairs, par exemple, qui est le magazine de référence états-unien en matière de politique étrangère. Même avertissement sans frais en commençant un long article sur notre présidentielle. L'élection présidentielle française de 2017 est la plus incroyable de la Ve République. Pour la première fois depuis De Gaulle, les candidats des principaux partis risquent de ne pas atteindre le second tour. Quant aux deux partis qui font la course en tête, le Front National et En Marche, ils n'ont jamais eu à exercer de responsabilité gouvernementale. C'est très subtil, mais l'avertissement au lecteur est tout aussi clair. Préparez-vous à ne pas comprendre grand-chose ou y est passé beaucoup de temps. Et parfois, l'aveu d'incompréhension est carrément explicite, comme à Londres dans The Independent, qui est un quotidien très à gauche. Parlant du Trocadéro, la journaliste remarque que le dispositif de sécurité est typique des rassemblements anti-système contestataires, voire anarchistes ou de l'ultra-gauche. Puis immédiatement après, elle ajoute « Mais ce qui rendait cette manifestation particulièrement inhabituelle est que les manifestants étaient venus soutenir un candidat présidentiel très conservateur, François Fillon donc, voire réactionnaire, sur à peu près tous les sujets, surtout ceux touchant la loi et l'ordre.
Et dans cette confusion, Anthony, j'imagine que certains de nos confrères ont dû trouver une ou des solutions, non ?
Eh bien, la solution, Nicolas, c'est de prendre les problèmes les uns après les autres. C'est agir un jour un article sur Macron, un autre sur Fillon, et vous glissez à la fin quelques phrases de conclusion. Ou alors, vous comparez avec une situation locale. C'est la solution d'El País en Espagne. Consacrer un article à François Fillon en le comparant à Artur Mas, l'ex-président de Catalogne condamné hier à 2 ans d'inéligibilité, histoire de dire que les deux ont tort de s'en prendre à la justice. Et de la part d'El País, comparer Fillon à un responsable catalaniste, ce n'est pas un compliment, croyez-moi. Et puis il y a le portrait pur et simple, c'est ce qu'a choisi de faire Le Temps de Lausanne, avec une accroche bien provocante, histoire de ne pas perdre le lecteur en route, sous le titre « Le phénomène Macron ». Le Temps écrit, il y a ceux comme François Hollande qui ont un programme électoral qu'ils ne respectent pas vraiment. Il y a ceux, plus rares, comme Donald Trump, qui ont un programme électoral qu'ils tentent de respecter à la lettre. Les uns comme les autres suscitent déception et colère. Puis il y a ceux, encore plus rares, comme Emmanuel Macron, qui n'ont pas vraiment de programme électoral et qui soulèvent les foules. Comment dire plus clairement combien cette élection française est complexe, maintenant, demain et probablement tout le long, et mais aussi combien elle est passionnante pour ceux qui ont décidé de s'accrocher ferme au récit.
Anthony Bélanger, merci de la complexité. On va en ajouter encore à 19h20 dans le téléphone sonne consacré ce soir à l'abstention qui, à l'instant où l'on parle, s'annonce massive à la présidentielle. L'élection pourtant relativement épargnée de notre vie politique. Alors comment expliquer le phénomène? Quel en est le ressort en 2017? Serez-vous abstentionniste ou en dernière instance, quoi qu'il en soit, irez-vous quand même voter? Vos témoignages, vos questions, intervenez au 01 45 24 7000 et sur franceinter.fr.